France Culture. France Culture, de cause à effet. Aurélie Luneau.
L'agriculture à bout de souffle, comment sortir de l'ornière? Depuis l'après-deuxième guerre mondiale, le monde agricole a changé, embarqué dans une transformation des pratiques et des modèles. Au fil du temps, les crises côté agriculteurs se sont succédées, dénonçant ces dernières années la crise énergétique, les lourdeurs administratives, le Mercosur, la gestion de la grippe aviaire ou encore celle de la dermatose nodulaire contagieuse bovine. Mais n'est-ce pas là la partie immergée de problèmes et de mécanismes plus profonds qui tue aujourd'hui la profession? Après 70 ans de métamorphose du monde rural, nous vous proposons un état des lieux et une analyse des différents modèles qui s'opposent et de leur devenir sur une planète à préserver. Sujet complexe et tout en nuances à explorer avec nos trois invités. Jean-Christophe Bureau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à AgroParisTech, Université Paris-Saclay, chercheur au CEPI, auteur avec Sophie Troyer du livre « La politique agricole commune », un livre paru dans la collection Repères. Une nouvelle édition va bientôt sortir, dans le mois je crois, et tout cela c'est à la découverte. Avec nous également Jean-Noël Jouzel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, rattaché au Centre de sociologie des organisations à Sciences Po, co-auteur avec Giovanni Prête du livre « L'agriculture empoisonnée », un livre paru aux presses de Sciences Po. Et avec nous également Gilles Luneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter, essayiste et réalisateur, auteur notamment du livre « Les paysans face au chaos climatique », paru aux éditions Impact. Et alors, pour nos auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, je précise que nous n'avons en commun que cette homonymie, mais pas de lien de parenté. Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'environnement de France Culture. Nous sommes toujours en partenariat avec le journal Le Monde. Merci à Célestine Babinet qui prépare l'émission avec la collaboration de Aurélie Marseille, Vanessa Chang, Sophie Cheblin, Anne Delaveau de Lina. Et merci aussi à Alexandra Malka à la réalisation et à la technique, Ludovic Auger.
Depuis 2024, on se mobilise, que ce soit en France, en Belgique, les autres pays. Et on n'a pas vraiment eu d'avancée significative. On aimerait bien aujourd'hui qu'on soit écouté, qu'on ait un financement correct de la PAC post-27, que les traités un peu inutiles, alors que tous les produits sont produits en Europe, qu'on ne l'ait plus, et qu'on soit vraiment remis au centre de l'Europe.
On a l'impression qu'aujourd'hui, Ursula veut passer en force. On a l'impression que l'Europe est devenue une dictature. Même les grands dirigeants n'ont plus de poids. Les parlementaires européens n'ont plus de poids non plus dans la discussion.
Cette mobilisation intervient alors que la réforme des subventions de la PAC a déjà fait grincer les dents de nombreux agriculteurs et que la gestion de l'épidémie de dermatose bovine par le gouvernement français est vivement critiquée.
Reportage diffusé sur France 24 le 18 décembre 2025, les agriculteurs à Bruxelles. Dans un florilège de revendications, le Mercosur a remis le feu aux poudres dans un contexte géopolitique qu'il faut rappeler. Une guerre commerciale avec la Chine et les États-Unis, l'Europe qui tente de contrer la politique de taxation à outrance de Donald Trump et de sortir de sa dépendance avec le marché américain pour se garantir d'autres marchés, comme avec le Mercosur, conclu politiquement après 25 ans de négociations. Première question, messieurs. Pour la crise agricole, le Mercosur est-il l'arbre qui cache la forêt? Jean-Noël Jouzel.
Alors moi, je ne suis pas spécialiste du Mercosur, mais en tout cas, c'est un arbre dans une vaste forêt. Ça, c'est si on prend une métaphore spatiale, on peut prendre une métaphore plus historique. Enfin, c'est aussi un bout d'un long chemin que l'agriculture a entamé il y a plusieurs décennies. De manière très schématique, après la Deuxième Guerre mondiale, on a des décennies de modernisation agricole qui ont imprimé des formes de changement extrêmement puissants, des terres, des exploitations, des familles agricoles, des marchés agricoles, des modes d'alimentation. Et tout ça s'est condensé pour donner ce qu'on a aujourd'hui. Et le Mercosur, effectivement, c'est le petit bout de la lorgnette, mais ça c'est révélateur de problématiques d'ensemble extrêmement puissantes. Ouais.
Jean-Christophe Bureau, attardons-nous un petit peu, et Gilles Luneau aussi, sur ce Mercosur. Il est intéressant pour d'autres secteurs agricoles, hein, comme la viticulture, et pour surtout des secteurs de l'industrie française et européenne, hein, l'automobile, les machines-outils, la chimie, la pharmacie, etc., etc. Et n'oublions pas les terres rares. Mais il y a ce volet agricole hein, qui n'est pas le principal donc de ce vaste marché. Et l'Europe, on voit bien, recule quand même, accepte l'entrée de produits qui ne respectent pas le cahier des charges en vigueur en Europe. Jean-Christophe Bureau.
Alors c'est sûr que c'est un accord qui n'est pas particulièrement favorable au secteur agricole dans son ensemble, même si il y a quand même des perspectives d'exportation de fromage, beaucoup, et de vin aussi, vous l'avez cité, mais sur d'autres secteurs, que ce soit la volaille, la viande bovine, le biodiesel, etc., le miel, on est quand même plutôt sur une position défensive en Europe, et il n'est pas faux que des critères comme la traçabilité, comme un certain nombre de normes établies, surtout le processus d'établissement des normes que nous avons en Europe. Je pense par exemple à la directive REACH sur les produits chimiques, où on a ce principe de précaution. Quand on fait des accords avec des grands pays qui ont des processus d'élaboration assez différents, ça crée de la distorsion de concurrence. Donc ça, c'est un des points de la contestation qui est un petit peu peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase par rapport à ce que vous avez tout cité comme autre phénomène, oui.
Gilles Luneau, vous avez écrit une tribune d'ailleurs sur le Mercosur, notamment.
Oui, une tribune dans Le Monde, oui. Mais moi, ce que j'ajouterais, si vous voulez, c'est de prendre un peu de recul, c'est de voir que, vous le disiez, ça fait 25 ans qu'on le négocie. En 25 ans, il y a un tas de choses qui ont changé dans le monde. D'abord, l'alerte climatique, l'alerte sur la biodiversité, et ça ne prend pas du tout en compte. C'est-à-dire que c'est un accord qui est extrêmement daté, c'est un accord du vieux monde, du siècle passé, sur le mythe de la globalisation de l'agriculture. C'est quoi la globalisation de l'agriculture ? C'est dire que, au lieu d'avoir la priorité à nourrir des territoires, on a la priorité sur l'exportation. C'est ce qu'on a imprimé fortement, avec donc ce qui va avec, hein, un système agro-industriel de concentration des exploitations, de la mécanisation, des engrais, des pesticides, etc., sur une vocation entre guillemets exportatrice. C'est comme ça que parlent les tenants de cette voie-là. Ça a imprimé largement la politique européenne, on va dire, après la chute du mur de Berlin, hein, après la création de l'OMC, et donc l'accélération comme ça de la globalisation, avec, si je le fais en une phrase sur l'agriculture, que je relie à l'alimentation toujours, on va produire beaucoup pour répandre partout la même nourriture, en fait. Moi, je dirais plutôt de la malbouffe industrielle. Donc ça date, c'est un accord qui est daté de cette époque-là et qui ne prend pas en compte les enjeux qui sont apparus depuis.
Jean-Christophe Bureau, sur cette question-là. Alors c'est vrai qu'on a parlé aussi du soja, du maïs d'Amérique du Sud, un produit dans des conditions compliquées, hein, pesticides, déforestation, émissions de CO2, etc. La ressource en eau aussi. Vous, ce Mercosur, vous le voyez comment ? Parce que c'est vrai, comme je disais, il y a le volet agricole qui mériterait certainement mieux. Mais est-ce que l'Europe peut se passer de ce genre de marché aujourd'hui, dans le contexte géopolitique tel qu'il est, avec d'un côté Trump, de l'autre côté d'autres puissances? C'est compliqué.
C'est bien ça la question. Alors, bon, le volet agricole n'est pas particulièrement positif pour l'Europe. Le volet industriel, pour la France, en fait, on ouvre plutôt la concurrence de Volkswagen aux industries françaises qui sont déjà pas mal dans le Mercosur en automobile, par exemple. Et sur les services, c'est quand même beaucoup l'Espagne qui va en profiter. Donc, et d'une manière générale, les simulations que nous avons faites au CEPI sur ces accords de libre-échange, c'est pas des gains énormes en termes de pourcentage de PIB. Mais ceci dit, et vous avez tout à fait raison, si on prend une vision un peu plus large, qu'est-ce qui se passe actuellement ? On avait un système de régulation du commerce mondial depuis 1994, enfin même depuis 1947, qui fonctionnait plutôt bien, avec des règles de droit. Un exemple, c'est que l'île d'Anguilla, qui doit avoir 30 000 habitants, a gagné un conflit commercial auprès de l'OMC parce que c'était contre les États-Unis, parce que c'était arbitré par des règles de droit. Essayez maintenant qu'une île de la Caraïbe ait un conflit commercial avec Donald Trump, le lendemain matin, elle est envahie, j'imagine. Donc, on avait quand même mis un système depuis 1947 qui fonctionnait bien. Je pense d'ailleurs que la gauche française ATTAC, qui a beaucoup tapé sur l'OMC, doit se mordre un peu les doigts que ce système n'existe plus. Or là, nous avons l'Union européenne, plus le Commonwealth, qui a monté une alternative, un espèce de pseudo-OMC, pour essayer de garder des règles, alors que la Chine ne la respecte pas, les États-Unis en sont complètement sortis, et la Russie à peu près aussi. Oui. Et l'idée ici, je pense, c'est plutôt de trouver des alliés, Mercosur, Inde, en plus du Commonwealth, pour essayer quand même que des règles de droit du commerce international...
En s'assurant ces marchés, ce sont des marchés d'échange.
Regardez par par le biais agricole ou même commercial n'est qu'un petit bout. Alors moi, je ne suis pas suffisamment qualifié en géopolitique pour ça, mais je crois que l'intérêt, il est quand même à ce niveau-là.
Alors on peut préciser aussi, ou se poser la question, est-ce que ce n'est pas le résultat du détricotage du Green Deal aussi, hein, le pacte vert européen qui aurait dû protéger les agriculteurs de cette dérégulation, au fond? Qui veut répondre? Jean-Noël Jouzel.
Oui, c'était... Bah, en fait... Je crois que c'est pas mal de repartir d'un peu en arrière, effectivement, comme y invitait Gilles Luneau. Donc, le début des négociations du Mercosur, c'est un temps lointain. Entre-temps, alors, il y avait déjà des données avant, mais on a pris de plus en plus conscience et on a pris de plus en plus la mesure sur le plan scientifique des dégâts induits par ce modèle d'agriculture qui est donc à vocation exportatrice. Ce qui s'est traduit par une agriculture à la fois avec des exploitations de plus en plus grandes, de plus en plus concentrées en capital et en machines, et puis de plus en plus consommatrices de chimie, et puis de plus en plus de monocultures exportatrices. C'est ce modèle-là dont, on va dire, la note sanitaire environnementale est encore difficile à chiffrer aujourd'hui, mais apparaît de plus en plus nettement. Hein. On sait que c'est un modèle qui va induire des lourds effets sur la biodiversité, de lourds effets sur l'eau en quantité, en accaparement de ressources, mais aussi en qualité, parce que ça induit aussi des pollutions.
Pollution des nappes phréatiques, notamment.
Voilà, on sait que c'est un modèle qui contribue massivement, et on le dit peu hein, dans la crise actuelle, mais c'est massif au réchauffement climatique. C'est 20% de nos émissions en France, c'est 15% à l'échelle mondiale. C'est absolument massif, c'est quand même un problème d'aujourd'hui qui est au milieu de la table, et on ne sait pas quoi faire. L'agriculture est manifestement dans son fonctionnement actuel, une agriculture qui émet trop de gaz à effet de serre. Donc
On est dans le trou, en fait. Voilà. Surproduction, surconsommation, il faudrait faire mieux avec moins.
Il faudrait faire mieux avec moins. Et puis, il faut rappeler toujours aussi que cette note environnementale sanitaire, les premiers qui la payent, c'est les agriculteurs eux-mêmes. Parce que, d'abord, ces changements climatiques, ils affectent au premier chef l'agriculture. Et puis parce que les dégâts sanitaires que provoque la chimie en agriculture, et notamment le recours massif aux pesticides, ils impactent potentiellement la population dans son entier, hein, tous les consommateurs, aussi les riverains de parcelles agricoles, mais les premiers impactés, et de très loin, c'est les agriculteurs. C'est eux qui sont exposés à un facteur de risque de cancer, de maladies neurodégénératives, de troubles de la fertilité, de problèmes de santé importants pour leur descendance. Hein. Être enfant d'agriculteur exposé aux pesticides, c'est avoir plus de risques d'avoir des leucémies, des malformations, des troubles du neurodéveloppement. Enfin, rien de ce qu'on souhaite. Et donc, on arrive à un moment où on commence à pouvoir chiffrer, il resterait beaucoup à faire, mais le coût de ce modèle, et il est massif.
Alors dans ces mouvements d'agriculteurs contre le Mercosur, des revendications nationales sont exprimées, preuve d'un malaise profond et de problèmes multiples. On voit bien les revendications sur la gestion de la grippe aviaire, de la dermatose nodulaire contagieuse, avec les abattages stricts des troupeaux bovins touchés. Ça a porté ses fruits en Savoie, il n'y a pas eu de contestation, mais la colère est venue du Sud-Ouest. Demande de publication des décrets pour faire entrer en application la loi Duplomb, en espérant obtenir l'assouplissement d'autres règles pour faciliter la construction d'ouvrages de stockage d'eau, par exemple, des bâtiments d'élevage industriel, sur la prédation du loup aussi. On voit bien que tout d'un coup, dans le flot et dans cette crise ou ces crises qui sont exprimées, tout arrive comme une sorte de grande liste de revendications.
Alors si vous voulez...
Gilles Luneau.
Oui, je retournerai même un petit peu en arrière. Je reviendrai avec le début de la guerre en Ukraine. Parce que pour moi, ça a été je l'analyse comme le signal historique d'une véritable contre-révolution de la FNSEA, en gros. Hein. Faut nommer les choses. Parlant à ce moment-là et obtenant le labourage des jachères, qui est un outil agronomique. Enfin, on pourra en parler. Le labourage des jachères, c'est 300 000 hectares en France, mais je sais plus, c'est 4 millions d'hectares, je crois, à l'échelle européenne. Je parle de mémoire. Au nom de, parce que la guerre en Ukraine allait affecter le commerce des céréales, ce qui est vrai. Ils se sont emparés de ça pour réclamer, on va dire, une véritable régression de tous les acquis de pratiques agronomiques qui servaient, en gros, le climat et la biodiversité. Et je pense que c'est le départ de là. Et à partir de là, si on regarde ce qui s'est passé, sur les 4 ans qui s'écoulent, tous les mouvements en France, mais même en Allemagne, en Espagne, qu'on a pu voir, parce que derrière, il y a le comité des organisations agricoles, le COPA de Bruxelles, qui était aussi présidé à l'époque par Christian Lambert. Ils ont organisé, je vais dire, corseter les colères légitimes, hein, une vraie détresse dans le revenu, particulièrement chez les éleveurs, c'est ceux qui gagnent le moins en agriculture. Hein. Je veux dire, l'échelle dans l'élevage, les éleveurs, ovins, caprins, bovins, c'est 15 000, 20 000 euros par an. Par contre, si on passe aux céréaliers, on met 3-0, enfin oui. 5-0. Quoi. Oui. Donc, il y a une vraie détresse, hein, que les gens payent dans leur chair, hein, en suicidant, je veux dire. Et cette détresse est instrumentalisée, on l'a déviée sur les normes. Certes, c'est pas facile de faire les déclarations PAC pour toucher ses sous. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des empilements de choses qu'il faut revoir.
Et les délais aussi.
Mais ça dépend des pays, hein. Mmh. Et la France a joué de la trésorerie aussi avec les aides européennes. Mais si vous voulez, vous avez 9 milliards par an, parlons-en, il y a 9 milliards par an d'aides européennes qui vont aux agriculteurs, qui sont doublées par la France, hein, en gros. Pour 380 000 exploitations. Donc,
on est à 13 à 14 milliards par an.
Ouais,
16 milliards.
16, et si vous prenez l'ensemble des concours publics, on dépasse 20 milliards. Mmh. Et si on prend l'ensemble de la chaîne de transformation, on est à 48 milliards. Si on compte les exemptions d'impôts, etc. Enfin, je pourrais donner les références. Hein. Donc, il y a...
Mais dans cet état des lieux, hein, Gilles Luneau, j'ajoute juste pour nos auditeurs aussi, et puis pour nous, hein, en 2020, je crois, l'INSEE avait rapporté que le revenu mensuel moyen d'un agriculteur en France était de 2 300 euros, mais en précisant que cela cachait de très importantes disparités. Et je pense que là, avant d'aller plus loin, il faut donner à comprendre justement, il y a agriculteurs et agriculteurs, et notamment avec ces questions de la PAC. Écoutez d'abord ce reportage diffusé sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, c'était le 11 septembre 2024, et nous allons justement mieux comprendre quels sont ceux qui tirent leur épingle du jeu.
PAC, politique agricole commune. Dans ce dossier, les aides qu'attend toujours Martin Souriau, co-gérant d'un élevage de volailles en bio. 24 000 euros qu'il aurait dû recevoir dès le printemps.
Forcément, c'est un manque sur la trésorerie. La chance qu'on a, c'est qu'on fait de la vente directe. Donc, on est peu soumis aux fluctuations des prix de matières premières. Il n'empêche qu'on a des salariés, on a une structure à faire fonctionner et qu'on a quand même besoin de ces aides. On ne peut pas fonctionner sans les aides. Ça, c'est clair.
Comme lui, une soixantaine d'exploitants en bio installés dans la Vienne attendent toujours le versement de leurs aides. La direction départementale des territoires, qui instruit leur dossier, invoque une pénurie de personnel et un problème de logiciel informatique.
Moi, ce que je trouve complètement inadmissible, c'est que c'est des aides pour la transition agricole, pour aller vers une agriculture plus vertueuse pour l'environnement. On sait très bien qu'on en a besoin de ça. Et c'est les aides qui sont versées en dernière. Et bien souvent, c'est les aides qui sont versées en retard.
Alors, essayons de comprendre, justement. Il y a ces aides, mais ces aides ne sont pas fléchées de façon équitable, on va dire, peut-être. En tout cas, il y a eu des choix qui ont été faits à l'échelle européenne. Jean-Christophe Bureau, ce monde agricole, donc, a son lot de perdants et de gagnants. On a à peu près combien d'exploitations en tout ?
300, le dernier recensement 000, qui date de 2020, oui. Mais ça change très vite. Hein, donc, c'était 390 000 exploitations, d'accord. Mais sachant qu'une exploitation en France, ça peut être un hectare ou 0,4 de maraîchage ou 10 ruches, etc. Est-ce que autrefois l'INSEE appelait des exploitations professionnelles ? Maintenant, ils ont changé un peu sous pression syndicale l'appellation, mais c'est 290 000 il y a 6 ans. Donc, c'est sûrement plutôt 250 000 maintenant, au rythme où ça disparaît.
Oui.
Donc, 250 000. L'ensemble des concours publics, donc les subventions, c'est bien 9 milliards de Bruxelles, mais c'est doublé par la France. Autour, les chiffres qui viennent de sortir, là, pour 2024, c'est 16 milliards. Ça ne compte pas les aides aux régimes sociaux, mais ça, c'est un peu normal que la pyramide des âges étant tellement... Les agriculteurs ne payent pas toute leur retraite, ni toute leur santé, mais disons que si on élimine ça, c'est quand même 16 milliards. Si vous divisez 16 par 250, il reste quand même pas mal de choses. Il reste à peu près, on arrive à 50 000 euros en moyenne d'aide aux exploitations agricoles. C'est un secteur qui est incroyablement surfinancé par le contribuable français et européen. Mais là-dedans, ça n'empêche pas qu'il y a des inégalités absolument gigantesques. Je ne dis pas que tout le monde devrait recevoir la même chose, mais ces aides maintenant sont essentiellement données à la surface. C'est un régime où il y a plein de choses compliquées, mais pour simplifier, c'est tout à l'hectare.
La surface ou la tête de bétail, c'est ça?
Oui, c'est sur, oui, un peu, mais beaucoup la surface. Alors, vous regardez les manifestations, qui, celles de 2024, qui ont beaucoup commencé dans le sud-ouest, la région Occitanie, tout ça. C'est une région particulière, la moyenne des surfaces, c'est 20 hectares. La moyenne nationale, c'est 80 hectares. Donc là, quand vous avez 20 hectares, que vous êtes sur des productions très sinistrées, on l'a dit, l'élevage bovin, viande, enfin l'élevage viande en général, la viticulture, et on a une chute de la consommation de vin, la viticulture ne voit pas le bout de la crise et ne le verra sans doute pas avant longtemps, et que vous avez 20 hectares, vous allez toucher quoi, 4000 euros d'aide peut-être avec 20 hectares en tirant un petit peu sur tout. Si vous avez 200 hectares, vous touchez 10 fois plus. Quoi. C'est simplement ça. Donc la PAC va corriger des faibles revenus lorsque vous avez les surfaces, mais lorsque vous ne les avez pas, il n'y a rien qui corrige. Voilà.
D'où la perte d'énormément de petites exploitations qui sont rachetées par les plus gros la plupart du temps.
Voilà, c'est surtout, il n'y a pas tant de faillites que ça, c'est surtout du non-renouvellement d'exploitation. Et là, la PAC a un rôle qui est quand même assez ambigu. C'est que, d'une part, comme les aides sont à l'hectare, vous avez une incitation à vous agrandir, puisque plus vous avez d'hectares, plus vous avez d'aides, et que, d'autre part, elle donne les moyens à ceux qui ont beaucoup d'hectares de racheter les petits, justement. Donc on a ce double effet qui accélère la concentration. On n'est pas encore à des niveaux gigantesques, hein, 80 hectares, en moyenne nationale, mais ça va vraiment très vite. Là où il y a une hypocrisie, c'est que, à la fois, les autorités nationales, le ministère de l'Agriculture, les politiciens, mais aussi les syndicats, prétendent défendre un modèle familial, alors que derrière, ils ne font absolument rien pour freiner ou quoi que ce soit cet agrandissement. Et peut-être qu'il est tout à fait légitime. Peut-être que un commentateur qui est souvent à la télé, mon collègue De Marty, dit que les surfaces d'exploitation sont beaucoup trop petites en France, c'est ça qui nuit à la compétitivité. Si c'était une politique assumée d'agrandissement, pourquoi pas? Mais là, en tout cas, c'est vraiment une hypocrisie. Quoi.
Trop petite par rapport aux pays d'Amérique latine, par exemple?
Par rapport, je sais pas, aux Anglais, par rapport aux Slovaques, par rapport... voilà.
Des modèles d'agriculture qui s'opposent, hein. On le comprend. Il n'y a pas un modèle d'agriculture, il y a des modèles d'agriculture. Jean-Noël Jouzel.
D'abord, il y a des cultures. Voilà, concrètement, déjà. On l'a bien compris. Jean-Christophe Bureau l'a dit, mais c'est pas la même chose du tout d'être un viticulteur du Languedoc ou d'être un céréalier de la Beauce ou un éleveur porcin de Bretagne ou de Savoie. Tout ça, c'est des conditions matérielles de production, d'entrepreneuriat et d'existence qui sont pas les mêmes et qui résultent dans des différences massives. Et puis, il y a aussi plusieurs façons de cultiver, y compris une culture constante. Donc, bien sûr, il y a des choix très, très hétérogènes qui peuvent être faits par les exploitants agricoles, qui peuvent s'engager dans différentes options techniques. Maintenant, il y a quand même une agriculture qu'on dit conventionnelle. Donc ça, c'est le mot poli pour dire intensif, mais ça dit aussi quelque chose. C'est-à-dire que c'est une convention qui s'est durablement imposée et dans laquelle sont quand même enrôlés la plupart des exploitants agricoles aujourd'hui en France. C'est quand même les autres choix, donc les choix moins intensifs, restent minoritaires.
Et oui, comme vous dites, ils ont été enrôlés. On peut rappeler que le ministre de l'Agriculture des années 60, hein, Edgar Pisani, qui a été ministre sous Michel Debré et ensuite sous Georges Pompidou, avait lui-même reconnu avoir fait une erreur dans le remembrement, par exemple. Et dans son livre « Un vieil homme et la terre », hein, paru en 2004, il avait écrit ceci « J'ai favorisé le développement d'une agriculture productiviste. Ce fut la plus grosse bêtise de ma vie. » Ça dit quand même beaucoup aujourd'hui de tout ce qui gagne graine en fait ce monde-là et qui semble être à contre-courant des enjeux planétaires, environnementaux et de santé aujourd'hui, Gilles Luneau.
Oui, je voudrais juste compléter sur les agriculteurs, mais les agricultures, c'est-à-dire que en fait, fondamentalement, ce sont des modes de faire valoir agronomiques différents qui s'opposent. Hein, vous parliez d'agriculture conventionnelle. Bon, il y a l'agriculture bio, il y a l'agroforesterie, il y a l'agriculture de conservation. Il y a un rapport à la terre qui est différent suivant les formes d'agriculture. Oui. Ça débouche aussi sur des modèles économiques différents, mais on ne pourra pas forcément développer ça. Et puis surtout, si on regarde la fonction de l'agriculture, qui est quand même de nourrir. Il y a des modèles qui nourrissent, on va dire, globalement un territoire, mettons-le européen. Hein. Quand je dis territoire, c'est pas forcément le village. mais qui en même temps prennent en compte la réalité pédoclimatique des endroits où ils sont, ce qui impose de ne pas faire tout. C'est pour ça qu'il y a une variété. Les cultures alimentaires sont nées comme ça, en fait, hein, avec la variété pédoclimatique et donc ce qu'on pouvait cultiver normalement, on va dire, en étant inséré dans l'écosystème. Donc, si vous voulez, ces agricultures-là, aujourd'hui, sont minoritaires. Et puis, en face, vous avez un modèle qui se fiche totalement du pédoclimatique, vu qu'on résout tout avec de la chimie.
Le pédoclimatique ?
Oui, c'est-à-dire la qualité du sol, d'accord, si vous voulez, la géologie. Et puis, suivant qu'on est dans le midi, avec le soleil du midi, ou dans le nord, dans les plaines du nord, c'est pas tout, on fait pas des patates dans le Roussillon, quoi, je veux dire, voilà.
Oui, Jean-Noël Jouzel.
Oui, je veux bien revenir aussi sur ce que vous avez dit sur Edgar Pisani, le remembrement. C'est quand même une histoire intéressante parce que ça nous rappelle que cette agriculture dans laquelle on est, c'est encore une fois le résultat de longs processus historiques, mais qui sont des processus, comme je disais, d'enrôlement, c'est-à-dire qu'il a fallu convaincre les agriculteurs de travailler autrement que ce qu'ils faisaient auparavant. Et l'agriculture, c'est ancien, donc ça faisait longtemps. Et il a fallu les convaincre de moderniser leur exploitation. C'est passé par différentes incitations, mais notamment celle-ci, la remembrer, c'est-à-dire couper les arbres, couper les haies, faites des plus grandes parcelles.
Il y a eu des manifestations, il y a eu des crises, il y a eu des affrontements.
Ça n'a pas été de soi, et ça vient un peu symboliser cette histoire de train du progrès, en fait. Hein, c'est un peu la métaphore qui vient spontanément à l'esprit quand on pense à l'évolution de l'agriculture au cours du second XXe siècle, c'est-à-dire ce train lancé à une vitesse de plus en plus rapide, dans laquelle les agriculteurs étaient invités à monter au risque sinon de devoir sortir de l'agriculture parce que n'ayant plus d'exploitation viable dans ce modèle-là. C'est assez frappant de voir que cette incitation à remembrer, à tailler, à couper les arbres, qui n'est pas si ancienne, hein, qui a 60 ans, 70 ans, très très vieux, et ben maintenant a été relayée par une incitation à replanter des haies dans laquelle il faut à nouveau enrôler les agriculteurs pour une toute autre histoire, un tout autre modèle. Enfin, on comprend à quel point, si on se place à l'échelle d'un exploitant conventionnel, c'est quand même très compliqué cette affaire, c'est très contradictoire.
Jean-Christophe Bureau, vous voulez réagir ou pas ?
Oui, alors bon, la logique de Pisani, il explique très bien d'ailleurs dans son livre, était tout à fait compréhensible. Hein, c'était de permettre la mécanisation de l'agriculture, la disparition de jachères pour nourrir les animaux de trait, et donc accroître la production. C'était un petit peu aussi le sens de la PAC, si vous regardez les objectifs de la PAC dans le traité de Rome.
Il avait participé à sa mise en place d'ailleurs.
Tout à fait, tout à fait. Ça, maintenant, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin de convaincre les agriculteurs d'aller là-dedans. Ça fait 60 ans qu'ils y sont, et on a un phénomène d'agrandissement des parcelles qui est tout à fait visible et qui ne s'arrête absolument pas et qui évidemment détruit cette mosaïque paysagère qui compte beaucoup pour la gestion de l'eau, pour la biodiversité, pour tout ça. Mais le problème, c'est que ce modèle, aussi critiquable qu'on l'est, en termes purement comptables, il est pour l'instant très rentable. Enfin, il est rentable. Alors, il est fragile, parce que quand on voit comme la très mauvaise récolte en 2024, ou quand on a mis beaucoup d'argent dans les engrais, les phytos, et que le prix du blé qui passe de 300 à 180, là, ça alimente aussi les manifestations. Il est fragile, il est beaucoup moins résilient
rentable. Mais sous perfusion.
Voilà, il est sous perfusion aussi, mais il est moins résilient que le modèle dont parlait Gilles Luneau, qui s'appuie plus sur les cycles biologiques, quoi. Mais il reste quand même globalement assez rentable. Donc on peut comprendre que les agriculteurs, dans leur quand même la majorité, il faut dire, y aillent. Là où c'est moins compréhensible, c'est que ces 16 milliards d'euros encouragent ça. Alors qu'on sait, comme vous l'avez dit, Monsieur Jouzel, qu'il y a des coûts cachés à cette agriculture, des coûts de pollution de l'eau, des coûts sanitaires, des coûts liés à l'ammoniac. L'ammoniac, on sous-estime, mais vous regardez les rapports des Sénats sur le coût de la pollution du Sénat, sur coût de la pollution de l'ammoniac qui vient des engrais azotés, c'est gigantesque. Ça fait de l'as, ça fait des pertes de productivité au travail, des frais médicaux énormes. Ces coûts cachés-là, on n'est prend pas en compte avec l'argent de la politique agricole. D'ailleurs, même les subventions au maintien du bio ont été éliminées récemment.
Oui, Gilles Luneau.
Mais je vais compléter. Dans les coûts cachés, il y a aussi le coût de tout ce qu'on importe pour nourrir le bétail. Je veux dire, toutes les importations, il y a des coûts cachés, je veux dire, environnementaux, énormes, que ça soit dans le transport.
Le soja est apporté pour nourrir les animaux.
Le soja, le maïs.
La potasse, le phosphore, l'azote pour les champs.
Absolument. Ouais. Mais rien que soja, maïs, on est à plus de... Enfin, tout ce qui est complément, enfin, alimentation animale en Europe, on est autour de 53 millions de tonnes par an, c'est énorme.
Et donc nous sommes dépendants, hein, si j'ai bien lu, la Chine et l'Inde dominent la production mondiale de glyphosate et de néonicotinoïdes. En fait, on a créé une agriculture dépendante.
Absolument, géopolitiquement dépendante.
Tout à fait. Et ça, le ministère français de l'agriculture s'est rebaptisé ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
On en est loin.
C'est peut-être un petit peu abusé parce que, justement, ce modèle d'agriculture conventionnelle qui repose vraiment sur des intrants largement importés, on n'a plus de potasse puisqu'on a tout épuisé, les potasses d'Alsace, on n'a jamais eu de phosphate. On avait de l'engrais azoté, il y a trois engrais pour faire produire des plantes, je le précise. L'azote, elle vient de l'air, mais elle est faite avec du gaz, enfin les engrais sont faits avec du gaz, et là, tout est en train d'être délocalisé, y compris en Russie. On importe de l'urée de Russie, des phosphates de Russie, comme on n'a jamais autant importé actuellement. Donc, est-ce que c'est ça la souveraineté alimentaire ou est-ce que c'est pas plutôt quand même revenir à des choses plus économes en intrants? La question se pose.
Oui, l'agriculture intensive qui dépend du pétrole, des engrais, des tourteaux de soja, etc. Vous parliez des coûts pour la santé des écosystèmes, de l'environnement et puis le coût, bien sûr, ô combien pour la santé des agriculteurs et la santé publique. Écoutez cet extrait de reportage, ce témoignage diffusé sur France 3 Hauts-de-France le 11 septembre 2024.
Un cancer du sang en 1996 à l'âge de 35 ans, une rechute 10 ans après.
Ça rappelle des vieux souvenirs.
Et des séquelles toujours.
Fatigue le soir, terrain propice aux phlébites et la cataracte débutante aux deux yeux nécessitant une surveillance.
Ancien cultivateur Alain Hubeau a attendu 2019 pour voir ses problèmes de santé reconnus en maladie professionnelle et leur cause identifiée, les pesticides.
J'avais une cabine mais ouverte. Il y avait un pulvérisateur qu'on ouvrait les rampes à la main, donc on le mettait des gants, mais on se faisait comme arroser, on inhalait les produits aussi. Je dors pas très bien, j'ai toujours mal à ma jambe, j'ai toujours peur de faire des phlébites, donc je prends toujours les cachets pour ça. Après j'ai des problèmes de dents, dès qu'il y a un truc, je me le chope.
D'abord reconnu à 30% d'incapacité, Alain a dû ferrailler pour réévaluer ce taux à 70%. Avec l'association Phytovictimes, il se bat aujourd'hui pour obtenir un effet rétroactif de ses indemnisations. En janvier 2020, la loi a créé un fonds spécifique. Mais la Sécu des agriculteurs, la MSA, refuse de remonter au-delà de 2 ans.
C'est l'exemple type de 650 autres agriculteurs qui, à ce jour, n'ont toujours pas touché le complément d'indemnisation du fonds des victimes des pesticides. Au départ, on nous disait, on ne sait pas où ils sont. Aujourd'hui, on sait les dénombrer. Donc, si on sait les dénombrer, c'est qu'ils savent où ils sont et on sait exactement qui sont ces gens.
France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
Jean-Noël Jouzel, terrible toujours ces témoignages. Ils sont nombreux, puisque de plus en plus la parole se libère, même si le sujet reste encore tabou. Hein, ça complique les démarches aussi de la part des victimes. Pas toujours facile non plus de montrer la corrélation, et encore moins pour les femmes d'agriculteurs, donc qui, elles, sont souvent oubliées, les oubliées des pesticides, les femmes ou les enfants, et puis les habitants proches. On voit bien quand même que ce système a des coûts, bien sûr, des coûts humains, des coûts pour la société. Est-ce que... Les chambres d'agriculture, les syndicats n'ont pas une responsabilité ou ne devraient pas, justement, avec de telles conséquences révélées aujourd'hui, repenser les modèles d'agriculture?
Oui, alors on pourrait se dire que les syndicats agricoles, donc qui défendent les travailleurs agricoles, sont les mieux placés pour exiger une plus stricte régulation de ces produits chimiques utilisés en agriculture. Donc là, ici, on parle des pesticides principalement, qui ont des effets délétères sur la santé des agriculteurs. En tout cas, on serait dans un milieu industriel, on s'attendrait à ce que la CGT, la CFDT montent au créneau, comme ça a été le cas pour la crise de l'amiante. Or, c'est pas un sujet de revendication syndicale agricole très forte. Alors pourquoi ça l'est pas? Bah d'abord parce que en fait les syndicats agricoles, on est quand même dans une agriculture qui reste, donc je pense que Jean-Christophe Bureau l'a bien dit, il y a un peu un mythe de l'agriculture familiale qui est quand même mis à mal par les évolutions du secteur agricole, mais néanmoins on reste dans une agriculture de petits patrons en France, et ces syndicats agricoles sont ceux qu'on connaît, la coordination rurale, la FNSEA notamment, alors la Confédération agricole aussi, mais c'est une autre option politique.
Et les jeunes agriculteurs.
Mais voilà, ce sont d'abord des syndicats de petits patrons. Parfois de tout petits patrons, parfois de plus gros patrons, mais c'est des petits patrons qui sont notamment appelés à participer activement au financement de leur propre branche de sécurité sociale et de la branche accident du travail maladie professionnelle.
Donc ils ne remettent pas en cause les modèles, le modèle majoritaire.
C'est pas si simple que quand c'est un employeur qui paye, parce que là l'employeur, ils sont leurs propres employés, leurs propres salariés, c'est eux-mêmes. Donc ça c'est pas un sujet facile pour le syndicalisme agricole, en tout cas le syndicalisme des exploitants. Et puis le syndicalisme des salariés en agriculture, c'est l'occasion de le rappeler, il est extrêmement faible, morcelé, c'est un taux de syndicalisation extrêmement bas. C'est souvent des travailleurs qui sont précaires, qui sont typiquement ce genre de travailleurs qui se syndiquent peu. Et donc là aussi, c'est pas des syndicats, les syndicats du salariat agricole ne sont pas ceux qu'on va le plus entendre.
Quelqu'un veut réagir peut-être sur ce sujet-là?
Non, je crois que...
Oui, Jean-Christophe Bureau. Les syndicats, les chambres d'agriculture, on parle aussi des lycées agricoles, mais on voit bien qu'il y a quand même urgence à repenser ce modèle.
Ça, on ne l'observe pas. Si vous prenez toute la loi Duplon qui est passée, ça va quand même plutôt dans le sens d'une agriculture plus chimique.
Oui, rappelez-nous d'ailleurs, la loi Duplon, c'était revenir sur les avancées environnementales.
Alors, les médias ont beaucoup parlé de l'acétamipride, ce néonicotinoïde, mais il y avait beaucoup d'autres choses qui, eux, n'ont pas du tout été contestées par le Conseil constitutionnel, donc qui sont passées, en particulier des choses sur l'obligation de se former à l'utilisation des pesticides, la séparation de la vente et du conseil, puisque le conseil, c'est beaucoup les coopératives agricoles qui gagnent de l'argent quand même essentiellement à vendre des phytos et de l'engrais.
Donc qui menottent, on peut dire, qui menottent d'une certaine manière un peu les agriculteurs.
Je ne sais pas, mais enfin, il y avait une volonté de séparer le conseil de la vente, ce qui était quand même un petit peu logique. On est revenu quand même dessus. L'ANSES aussi, plus ou moins sous tutelle des ministères de l'agriculture. Tout ça, c'est des choses qui sont passées. Donc on n'a vraiment pas du tout cette mobilisation syndicale en faveur de ce que vous exprimez.
Et faut-il rappeler que le secteur agricole, c'est celui dans lequel il y a le plus de suicides en France, je crois. Gilles Luneau. Sur les suicides,
c'est toujours compliqué.
C'est ce qu'on dit en général.
Il y a les tentatives de suicide, il y a le passage à l'acte. Et ce qui est frappant, c'est que le passage à l'acte en agriculture est malheureusement soldé souvent par la réussite, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il se rate moins, les agriculteurs. Mais effectivement, c'est une profession qui est très suicidogène. C'est
très
évident.
Touché.
Si c'est la plus ou la... Enfin voilà, c'est difficile à classer avec
les
d'autres...
Les anesthésistes, les policiers qui sont...
D'autres secteurs les rattrapent.
C'est des gens qui ont aussi des armes, des produits. Tout à fait, bien sûr. Les agriculteurs ont des produits aussi.
Voilà. Tout à fait. Gilles Luneau, rapidement.
Oui, je voulais revenir sur la difficulté de changer de modèle. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait, il y a pas si longtemps, là, une enquête sur l'enseignement agricole, en allant aussi bien dans le privé que dans le public. Et si vous voulez, à part, il y a des belles exceptions. La loi impose qu'on parle d'agriculture biologique. Mais je veux dire, le courant principal, c'est toujours l'agriculture intensive. Et j'ai interviewé un professeur en lui disant, alors comment ça se passe sur l'agronomie, les pratiques agricoles. Oh, il me dit, bon, de toute façon, ok, on fait une heure de bio, puis après on repasse aux choses sérieuses.
Ah oui.
Moi, je recommande à ce sujet l'écoute de l'excellente série documentaire de France Culture d'il y a quelques mois sur l'agriculture. Il y avait un très bon épisode sur les lycées agricoles qui rappelait que les lycées agricoles ont cette particularité qui recrutent des gens qui, pour une partie d'entre eux, sont déjà des petits experts du domaine parce que c'est des enfants d'agriculteurs et parce qu'ils sont déjà arrivés avec plein de connaissances qui sont parfois des connaissances que pourrait être bon de critiquer, de remettre en question. Mais enfin, voilà, ils sont déjà assez connaisseurs.
J'ai une eau rapidement.
Juste, oui, je veux juste simplement modérer mon propos. Je parlais de l'enseignement agricole, les brevets agricoles, les bacs agricoles.
D'accord.
Les écoles d'ingénieurs, c'est différent. Ils ont compris et ils sont en train de changer.
I look high, I look low, I look in everywhere I go. Looking for a home in the heart of the country. Smell the grass and the meadow. Whoa, whoa.
wanna get me a good night's sleep, living in a home in the heart of the country.
Of the Country de Paul McCartney. C'est votre choix musical, Jean-Noël Jouzel. Vous pouvez peut-être nous dire pourquoi, en dehors du titre d'ailleurs.
Oui, bah, bon, d'abord parce que moi, tous les mois de janvier, je me rappelle que Paul McCartney prend un an de plus et que peut-être qu'il n'est pas éternel et que voilà, et que je fais partie des millions de personnes qui seront sûrement très très tristes quand il ne sera plus là. Et puis cette chanson, bah, il l'a écrite juste après, c'est son premier album solo ou son deuxième, enfin c'est au début de sa carrière solo, donc après la folie des Beatles, et donc il raconte un peu son aspiration à se retirer à la campagne, Heart of the Country. Et ça me permet, moi, d'évoquer... J'ai fait un petit séjour de recherche à Cambridge il y a quelques temps. Je connaissais pas très bien l'Angleterre, honnêtement. Et donc, j'ai fait l'expérience de l'Angleterre. Donc, ce que je vais vous dire, va pas sûrement pas étonner beaucoup de vos auditeurs. Mais moi, j'étais un peu étonné quand on va chez Marks & Spencer ou chez n'importe quel supermarché ou supérette et qu'on veut acheter des fruits et légumes. En Angleterre, on se rend compte assez rapidement que pas grand-chose ne vient d'Angleterre, ni même d'Europe, que beaucoup de choses viennent d'Amérique du Sud. Et ça, c'est l'occasion de rappeler quand même que c'est pas tout à fait la même chose chez nous. Alors c'est vrai, on importe beaucoup, mais beaucoup moins que les Anglais. Et ça nous dit quelque chose, on a une agriculture qui est polluante, c'est vrai, une agriculture qui produit des effets délétères pour la santé, c'est vrai, mais on a une agriculture, on a réussi à la conserver jusqu'ici. Je pense aussi que c'est quand même, et moi j'aime bien le dire comme ça, c'est une espèce de trésor national, dont on peut penser qu'il est dans un triste état aujourd'hui, mais enfin...
À préserver,
et puis c'est un secteur qui est ultra subventionné, ultra piloté, on l'a dit. Donc il y a quand même des marges d'action pour faire autre chose que ce qu'on fait.
Et nourrir les citoyens, le monde, comme on dit, hein, c'est aussi un très beau métier. Nous poursuivons le magazine de l'environnement de Cause à Effet sur France Culture, en direct. Et nous sommes avec vous pour faire un état des lieux des différents modèles d'agriculture en France qui s'opposent, et puis parler aussi de leur devenir sur une planète à préserver. Avec nous, donc, Jean-Noël Jouzel, directeur de recherche au CNRS, rattaché au Centre de sociologie des organisations à Sciences Po. Jean-Christophe Bureau, professeur d'économie à AgroParisTech, Université Paris-Saclay, et chercheur au CEPI. Et Gilles Luneau, grand reporter, essayiste et réalisateur.
On restera le temps qu'il faut. Le gouvernement doit nous entendre.
On laisse entrer en France des produits qui viennent de l'autre bout de la planète, qui n'ont pas les mêmes contraintes et qui n'ont pas les mêmes normes qualitatives et les mêmes normes sanitaires. Ça, c'est inadmissible.
La présidente de l'Assemblée nationale est venue à la rencontre des manifestants.
On va dédier une séance publique le 11 février dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale où on demandera des comptes au gouvernement sur la prise des décrets. C'est fondamental. Et ça, vous pouvez compter sur moi.
Il faut que les décrets sortent avant le salon de l'agriculture. C'est pas possible.
Eh oui, avant le salon de l'agriculture. C'était un reportage diffusé sur France 24 le 13 janvier 2026 aux abords de l'Assemblée nationale, donc à Paris. Matignon, dans ses crises et ses soubresauts, a annoncé beaucoup de choses. Une loi d'urgence agricole, un texte qui sera examiné par le Parlement avant l'été. Sébastien Lecornu a demandé un moratoire sur toutes les décisions relatives aux questions de la politique de l'eau. Un plan de 300 millions d'euros a été annoncé par la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, le 9 janvier pour aider les agriculteurs, mais lesquels, on peut en parler. Promesse d'une augmentation de 10% des quotas de tir sur le loup, un assouplissement des conditions, etc., etc. Pourquoi, selon vous, les agriculteurs parviennent à faire plier le gouvernement ? Jean-Noël Jouzel.
C'est alors à la fois là encore le fruit d'une longue histoire de la co-gestion agricole dans les années 50-60, la modernisation agricole, les politiques de modernisation se sont écrites et ont été écrites avec des porte-paroles de l'agriculture, mais des porte-paroles, on va dire très unifiées à l'époque. C'est la FNSEA qui est clairement l'incarnation de ce syndicalisme agricole très unitaire. Donc la FNSEA, on le voit, a toujours un poids politique important, on le comprend, mais ce qui a changé sans doute depuis les dernières années, c'est une séquence qui s'est ouverte il y a un peu plus de 2 ans, vous vous souvenez sans doute, à l'automne 2023, les panneaux dans les villes rurales, dans certaines communes rurales ont été retournés, ils sont toujours retournés d'ailleurs, et puis depuis... il ne s'écoule pas 3 ou 4 mois sans qu'il y ait de nouveaux soubresauts, plus ou moins importants, de revendications agricoles bruyantes, voilà, et de manifestations souvent très visibles dans l'espace public. Cette séquence-là, elle est aussi le fruit de la montée d'une forme de concurrence politique au sein de ce monde syndical agricole. Donc, en l'occurrence, c'est la concurrence de plus en plus forte de la Coordination Rurale, qui est un syndicat qui est plus à droite que la FNSEA. On va dire que la FNSEA a été plutôt une forme de clientèle politique plutôt pour le centre droit, et là, on est plus à l'extrême droite. Et ça, je pense que ça joue un effet vraiment important. Ça a un effet vraiment important sur l'espèce de caractère inflammable du débat agricole aujourd'hui. C'est-à-dire que on a un petit côté de course à l'échalote syndicale, mais aussi auquel je pense c'est très sensible un gouvernement de centre droit qui est, je pense, très inquiet de voir filer. Un électorat qui l'électorat agricole est un électorat qui est très fidèle, c'est des gens qui votent plus que la moyenne, et c'est des gens qui votent plus au centre droit que la moyenne, pour le dire vraiment très très simplement. Évidemment, c'est à la Sarpette ce que je vous dis là, et il y a de la variété, mais enfin, et voir cet électorat de plus en plus tenté par une aventure d'extrême droite, c'est aussi une source d'inquiétude qui explique aussi pourquoi le gouvernement fait tant de concessions, notamment sur le plan environnemental, c'est-à-dire là où précisément il faudrait sans doute éviter de faire des concessions face à ces revendications assez violentes souvent.
En sachant que FNSEA et Coordination Rurale se mobilisent pour conserver le modèle ancien, c'est-à-dire le modèle productiviste d'une manière générale. Là, ils sont d'accord quand même.
Oui, ils sont surtout d'accord pour considérer que les mesures qui visent à rendre l'agriculture plus vertueuse sont une entrave au métier d'agriculteur. C'était le titre exact de la loi Duplomb. Hein, l'idée, c'est de lever les entraves au métier d'agriculteur. Mais c'est un peu terrible de voir les choses comme ça, parce que on voit bien que le métier d'agriculteur est un métier difficile. Il n'y a pas de secret. Essayer d'arranger les choses au prix de faire comme s'il n'y avait pas de problème de santé et d'environnement lié au modèle agricole tel qu'il est, c'est évidemment aller dans le mur assez rapidement.
Ah oui. Gilles Luneau.
Oui, je voudrais ajouter sur le poids syndical de la FNSEA. En fait, il y a ce que vous dites, Jean-Noël, mais il y a aussi le poids économique qui est énorme via les associations spécialisées, via les coopératives, via un certain nombre même d'outils de transformation qui sont aux mains de ses adhérents. Et si vous voulez, il y a une grande part du poids économique de l'agriculture qui repose sur les décisions de la FNSEA. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Pas seulement électoralement, quoi. Je veux dire, là, c'est un outil, ça peut être du chantage à l'emploi, ça. Vous voyez?
Alors, est-ce qu'on peut. Jean-Christophe Bureau, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, non. Enfin, c'est ce qu'a dit Jean-Noël, c'est tout à fait ça. Il y a cette course à l'échalote, elle est aussi amplifiée parce qu'on négocie les budgets PAC à Bruxelles en ce moment. Donc, il y a ça. Si je prends ma casquette de professeur, au niveau de la science économique, il y a des modèles qu'on appelle d'économie politique qui expliquent justement les choix de l'État. Et là, il y en a plusieurs qui ont été appliqués à l'agriculture. Par exemple, l'électeur médian, on a 5% des votes, mais qui peuvent faire basculer une majorité, il obtient beaucoup. Hein. Les chasseurs, les agriculteurs, les taxis, etc. Vous avez des modèles de Mansour-Olson où c'est quand il y a des gains assez concentrés et des coûts très répartis, eh bien, c'est plus facile de s'organiser. Enfin, il y a tout un tas d'explications comme ça. Et ça, c'est un petit peu ce qui se passe. Et c'est vrai que là, les syndicats type FNSEA ces dernières années ont obtenu énormément parce que l'électorat basculait vers plutôt l'extrême droite, et ils ont dit, pour retenir nos troupes, il faut nous donner beaucoup. Et ils ont obtenu tout ce qu'ils ont demandé, mais ils n'ont pas forcément réussi à retenir les troupes. C'est ça le problème.
On l'a vu avec les élections européennes.
Oui, Gilles Luneau.
Non, je veux dire simplement pour poursuivre la chose, ils ont quand même objectivement, je ne sais pas si c'était le plan, objectivement favorisé la montée de l'extrême droite au Parlement européen.
Alors, là où c'est un petit peu curieux, mais moi je suis pas politiste et je n'ai pas l'explication, c'est que si vous regardez le programme, par exemple, de la Coordination Rurale, sur leur première page web, c'est non au plafonnement des subventions que propose la Commission, par exploitation. La Commission propose 100 000 euros maximum d'aide par exploitation. Ça a peu de chances de passer parce que le plus gros bénéficiaire de la PAC, c'est M. André Jbabis, qui doit toucher pas loin de 40 millions d'euros d'aide agricole. Et il vient d'être élu Premier ministre de la République tchèque. Donc, et c'est des décisions qui sont prises à l'unanimité. Donc ça a peu de chances de ça. Mais quand même, c'est assez révélateur. On a deux syndicats qui sont pour les aides par hectare non plafonnées et qui sont soutenus par les petits agriculteurs du Sud-Ouest où la Coordination Rurale est très très présente.
C'est étonnant.
Alors que la Confédération paysanne dit plutôt qu'il faut des aides aux travailleurs. Et là, l'explication, elle est de cette apparente irrationalité économique, on va dire. Oui. Je pense qu'elle est très politique. C'est que la Confédération paysanne, peut-être à son corps défendant, s'est fait associer à la gauche qui, en milieu rural, ne passe pas du tout. Enfin, la France insoumise, pour être clair. Quoi. Oui. Et je crois que ça nous donne quelque chose d'assez complexe où la rationalité économique ne l'emporte pas forcément.
D'où l'importance d'apporter toutes ces nuances. Nous entendons aussi souvent parler de crise des vocations. Est-elle réelle ? Il semblerait quand même qu'il existe une relève. Encore faut-il l'aider à engager la transition vers un autre modèle.
Ces éleveurs bio préservent non seulement la terre, mais aussi le bien-être de leurs bêtes.
Ça implique en fait de respecter le rythme de l'animal. Donc aujourd'hui, on est en pause hivernale. Donc on arrive à 2-3 mois où on n'a pas de fromage. Ça permet que le troupeau se repose. Notre système, il est basé sur l'herbe. Donc quand l'herbe repousse, c'est le printemps, qui a la meilleure alimentation, et ben les petits chevreaux arrivent et les chèvres retournent dehors, elles vont manger le meilleur.
Pour l'instant, on a un petit revenu.
Mais on est pratiquement autonome en alimentation. On a un jardin, on mange de la viande bio, des œufs bio. On fait notre bois, on se chauffe au bois.
On travaille beaucoup, mais on a un cadre de vie exceptionnel. On est vraiment heureux d'être ici.
Jean-Christophe Bureau, vous disiez avant d'écouter ce reportage qu'il faudrait probablement plus d'égalité, que cette PAC soit plus commune et donc aider plutôt les travailleurs, c'est-à-dire des aides aux travailleurs, pas forcément à l'hectare ou aux têtes de bétail. On sent bien combien ces petits et moyens agriculteurs ont quand même besoin, eux aussi, de ces soutiens. Enfin, repenser la PAC aujourd'hui dans la situation, parce qu'il y aura dans quelques années, le sujet va revenir, ça vous semble complètement incohérent ou tous les enjeux dont nous avons parlé, santé, environnementale, planétaire, public, vont quand même rentrer dans les discussions?
Là, c'est assez mal parti, puisque il y a 5 ans, je vous aurais tenu un discours tout à fait différent, parce que nous avions le pacte vert, nous avions tout le financement derrière le pacte vert, le EU Next Generation Recovery Plan, enfin le plan de relance Covid, il y avait des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros. Et puis, il y avait quand même des débats. Là, vraiment, comme ça a été dit, depuis la guerre en Ukraine, qui a été précipitée, il y a eu un facteur aussi déclencheur, c'est les élections aux Pays-Bas, où un parti absolument obscur, agrarianiste, est apparu à 23%, je crois, ou plus que ça, aux élections de 2023, et qui a fait basculer tout le Parlement européen. Le PPE de Manfred Weber a paniqué en disant « ça va nous arriver aussi, il faut qu'on combatte ce pacte vert, qu'on combatte Farm to Fork, le volet agricole et alimentaire du pacte vert. »
De la ferme à l'assiette.
Et à la fin, grosso modo, il n'y a absolument rien de tout ce qui était prévu sur le secteur agricole, mais absolument zéro. Il y a une directive, je crois, sur l'emballage des produits alimentaires, mais tout ce qui était prévu n'est pas du tout
le
passé.
Le Green Deal est mort, c'est pour ça qu'il était très vertueux sur le papier.
Voilà, quand on entend des dirigeants syndicaux, y compris Mme Lambert dont vous parliez, disait « à cause du Farm to Fork, nous sommes vraiment dans des réseaux de contraintes », mais il n'y a absolument rien qui est passé, il n'y a pas un seul texte, donc c'est quand même aussi, là aussi, un peu de l'enfumage. Et là, je pense que on a vu les propositions de la Commission, qui maintenant n'est un peu plus qu'un gros secrétariat. La Commission, c'est plus la Commission des années Franz Fischler, etc. Glisser, et là, toutes les propositions vont vraiment vers deux objectifs qui sont compétitivité et simplification. L'environnement n'est même plus dans les sous-thèmes des dernières propositions.
Alors justement, avant de continuer dans ces 5 dernières minutes de l'émission à peu près à discuter de cette agriculture de demain, je vous propose d'écouter ce témoignage très, très étonnant et poignant d'un agriculteur. Il s'exprimait ainsi sur France 3 Occitanie le 27 février 2025.
Depuis plusieurs générations, les terres de Christian Couder sont cultivées en bio. Il y a 2 ans pourtant, il a fallu se rendre à l'évidence. La culture du blé en bio n'est plus rentable. Pour survivre, l'agriculteur s'est tourné vers des méthodes conventionnelles.
Il y a 5 ans, on vendait ça, 450 euros la tonne. Et il y a 2 ans, on a vendu 180 euros tonne.
Ça a été une décision difficile à prendre pour vous ?
Oui.
Pourquoi ?
Excuse-moi. Parce que la propriété était entièrement bio. Depuis mon grand-père. Et moi, je n'ai pas repris pour faire ça, quoi. Donc, par rapport aux enfants, eh bien, oui, je suis passé en conventionnel, mais c'est compliqué, quoi.
Que faudrait-il faire aujourd'hui, selon vous, Jean-Noël Jouzel?
Alors, moi, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire, mais ce genre d'histoire-là, vraiment, c'est effectivement poignant. C'est très triste de voir quelqu'un qui doit à la fois renoncer à faire l'agriculture qu'il voulait faire et qui en même temps ne peut pas renoncer à faire de l'agriculture. Parce que le piège est un peu double. Hein. C'est-à-dire c'est aussi compliqué pour les agriculteurs conventionnels qui ont beaucoup consenti d'investissement, d'emprunt, de sortir, de quitter le train. Hein, une fois qu'il est lancé à pleine vitesse, c'est compliqué de descendre. Moi, j'ai vraiment pas la solution au problème. Hein. Par contre, tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission... c'est qu'encore une fois, l'agriculture, c'est un secteur qui est hyper subventionné. Et que donc, au-delà des choix individuels ou des non-choix ou des contraintes dans lesquelles se trouvent les agriculteurs, il y a des choix politiques qui peuvent être faits. C'est-à-dire que ces subventions, on peut aussi décider de les affecter différemment, de manière à aider davantage certaines formes d'agriculture qui sont trop peu aidées aujourd'hui.
Alors, on n'a pas parlé dans tout ça de la SAFER, par exemple, hein, cette société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Face à elle, j'ai envie de mettre Terre de Liens, une association qui finance justement des plus petits ou des moyens qui voudraient pouvoir s'installer. Tout cela aussi, ça explique l'état des exploitations agricoles. Jean-Christophe Bureau, par rapport à ce qu'on vient de dire, ce que disait aussi Jean-Noël Jouzel.
Alors, tout à fait, on a quand même 16 milliards d'euros d'argent du contribuable distribué aux agriculteurs. Là-dessus, il y a 600 millions d'euros, donc ça ne fait pas beaucoup en pourcentage, qui sont sur les aides environnementales seulement. Le reste, c'est grosso modo des aides à l'hectare, c'est des défiscalisations du produit pétrolier, c'est des choses comme ça, quoi. Là, il y a quand même un moyen d'action on ne va pas du tout dans ce sens-là, que ce soit au niveau européen ou au niveau français.
On ne va pas dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que les tracteurs font peur quand même historiquement, ou parce que quand on voit en nombre, il pourrait y avoir des discussions, mais céder de cette façon-là, ça peut en étonner beaucoup. Hein.
Bah, si vous voulez, les revendications dans les manifestations sont multiples. C'est du revenu, c'est de la bureaucratie, c'est de l'eau, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas tellement agir. Il n'y a plus assez d'argent pour accroître les budgets PAC, etc. La façon la plus simple de satisfaire, c'est de supprimer des contraintes environnementales et sanitaires. Comme le disait... paraphrase vaguement Bruno Latour, les truites et les coquelicots ne votant pas, c'est quand même ça plus simple que d'accroître les budgets PAC. Quoi. Et ça, ben, ça ne suffit pas complètement à calmer, mais du coup, on va beaucoup dans ce sens-là.
Mais des citoyens votent à la place des truites et des coquelicots.
Ils font des pétitions, mais je ne suis pas sûr qu'ils votent tant que ça.
Hein. Gilles Luneau.
Bah écoutez, je crois que ce qui fait peur, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est beaucoup plus... C'est au-delà des agriculteurs, c'est la décision politique de changer de système alimentaire. Ça veut dire qu'on prend en compte le changement de paradigme climatique et écologique, et que ça veut dire qu'on enclenche quelque chose de beaucoup plus grand. Si vous voulez, si
l'agroécologie, on n'en a pas parlé parce qu'on n'aura pas le temps.
Non,
mais
la chose principale, on n'a pas de personne ici autour de la table est capable de donner la recette d'un modèle idéal, parce que d'abord, il va falloir les adapter aux conditions du climat et des sols. Donc déjà, il va y avoir une grande diversité, mais faut lancer le chantier scientifique d'expérimentation pour ça à grande échelle. On a déjà plein de bonnes réponses. Hein.
Et
on a
sachant des bibliothèques. Que, bien sûr, des établissements comme l'INRAE travaillent aussi.
Absolument, ils font
les initiatives sont là et pour accompagner.
Mais si vous voulez, et puis les scientifiques du climat qui sont extrêmement attentifs à tout ça. Mais la première décision à prendre politique, c'est le climat va changer la façon dont on envisage nos systèmes alimentaires, tout simplement. Et à partir de là, il faut décliner. C'est ça la première décision.
Eh bien, vous reviendrez pour travailler sur ces solutions. Merci à tous les trois. Merci Jean-Christophe Bureau. Je rappelle le titre du livre écrit avec Sophie Toyer, de La politique agricole commune, un livre paru dans la collection Repères. Une nouvelle édition est en préparation là sous peu et éditée à la Découverte. Jean-Noël Jouzel, co-auteur avec Giovanni Prête du livre L'agriculture empoisonnée, paru aux presses de Sciences Po. Et Gilles Luneau a conseillé votre livre Les paysans face au chaos climatique. Beaucoup de témoignages. Ce livre est paru aux éditions Impact. Bien sûr, comme d'habitude, les informations, la bibliographie sont à votre disposition sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, où vous pouvez aussi trouver d'autres podcasts en lien avec le sujet.